Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse ?
Le règlement. Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Maître Sophie, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous autres.
Ah oui, comment ça de précéder Guy Carbonneau en studio? Tu rencontres des gens de grandes entrevues dernièrement quand tu viens nous voir?
Oui, la semaine passée, Serge Savard.
Ouais,
alors vraiment, les chaussures, par exemple, sont grandes à remplir. Là, je me sens un peu de pression. Là, mais on va faire semblant que moi aussi, je suis une athlète de haut niveau puis que je connais tout ça. Alors,
Une avocate de haut niveau.
Effectivement.
Une avocate de haut niveau.
Ça, je suis consciente que oui, par exemple.
Tous nos invités sont importants pour nous. Aujourd'hui, plusieurs sujets tristes. C'est une journée grise.
Ouais.
Plusieurs sujets tristes dans l'actualité et dans ce que tu nous amènes. C'est notamment le cancer, le mois du cancer juvénile, le mois de septembre.
Oui, effectivement. Septembre, c'est le mois de sensibilisation de cancer chez l'enfant. Une copine à moi qui est directrice générale de l'EUCAN, effectivement, travaille très fort tout le mois de septembre pour sensibiliser les gens. On a l'impression que le cancer est de plus en plus présent dans nos vies au quotidien. Moi, personnellement, vous savez, j'ai perdu ma mère au mois de juin.
Oui.
J'ai perdu en fin de semaine un autre ami du cancer.
Du pancréas.
Puis mon fils aussi, il a des petits problèmes là, à ce niveau-là. On est encore en investigation. Alors, c'est quelque chose Merci beaucoup. Hein. C'est quelque chose qui me touche énormément. Puis tout récemment, en plus, on parlait de Derek Aucoin aussi, hein, qui se bat avec un cancer du cerveau, hein, si
exact.
Je ne me trompe pas.
Exact.
Donc, je pense que ça touche le monde de plus en plus près. Heureusement, il y a de l'avancée scientifique, donc ça fait en sorte que les gens peuvent survivre, mais c'est quand même une grosse étape. Puis les cancers, tu sais, c'est pas juste étranger à la maladie comme telle. Tu sais, par exemple, cancer du pancréas, etc., là, qui est plutôt comme des cancers personnels. Mais il y a parfois des cancers qui sont contractés dans le cadre de notre travail. Moi, dans le cadre de mon travail, vous le savez, j'ai fait un appel à tous il y a quelques temps où je disais que j'avais besoin de travailleurs ou des membres de leur famille qui avaient été exposés, par exemple, à l'amiante.
Oui, oui.
Bon. Mais au niveau des athlètes, il y a également des athlètes qui sont à risque de développer des maladies professionnelles de cancer.
Ah oui?
Oui, notamment les joueurs de golf.
Comment ça?
Les joueurs de golf, les statistiques sont qu'ils sont plus à risque de développer le cancer de la peau. En un an, ils vont être exposés 217 fois plus aux rayons UV que ce qui est nécessaire pour créer un coup de soleil en partant.
Donc, les joueurs de golf ne mettent pas assez de crème solaire.
Ça doit, ou quoi que ce soit, mais je pense que des fois, il y a même des limites à la protection. On va continuer dans notre exposition, on va en parler.
Le nombre d'heures que tu passes par jour.
Oui, Jimmy Walker puis Adam Scott, c'est quand même deux joueurs de golf qui, eux, ont été soignés pour des cancers de la peau. Alors, donc, il faut faire attention aussi dans le cadre de notre travail à être exposé à des chimiques ou à des produits, puis au moins se protéger.
Les gars qui travaillent dehors, les gars que les filles qui travaillent dehors là, pendant plusieurs mois de l'année, là, sinon toute l'année. Là.
Philippe Silva qu'on a reçu tout à l'heure là, lors du conseil des
il fait des couvertures.
Ben c'est ça là. On va dire, là, en plein soleil, l'été, là, tous les jours, là, c'est quelque chose.
Ouais.
Exact.
Oui, puis aussi, sont à risque aussi ce qu'on appelle des coups de chaleur. Donc, ça aussi, c'est très problématique là, pour les travailleurs de construction puis de l'extérieur. Donc, en plus de à risque de protection de cancer de la peau, tu as d'autres aussi.
Important de bien s'hydrater.
Oui, absolument.
Beaucoup de jeunes sportifs aussi, ben, des sportifs qui sont dans leur carrière, qui doivent faire une pause pour traiter un cancer. Il y a Maxence Parot qui vient de revenir à la compétition au East Game, lui qui a eu un lymphome de Hodgkin's et qui a eu 12 séances de chimiothérapie qui l'ont mis au plancher. Il est de retour maintenant, tout un combattant. Dans l'histoire, on parle du même lymphome qu'aurait eu Mario Lemieux.
Ouais.
Dans les années 90.
Oui, exactement.
Oui, mais ils ont survécu à ça. On pense aussi à Martina Navratilova, qui a eu le cancer des seins également. Et aussi, on a Scott Hamilton, on se rappelle du patineur artistique, qui a eu le cancer testiculaire, au même titre que Lance Armstrong.
Oui.
Donc,
qui a gagné 5 Tours de France par la suite.
Oui, donc c'est pas, c'est pas une fin de non-recevoir, c'est pas la mort absolue, heureusement, mais les traitements sont là pour aider les gens.
Mario était revenu, la même année, il avait je pense, remporté le championnat des marqueurs.
Wow!
Après tous les traitements et tout.
Un talent exceptionnel.
Ouais.
Il y avait eu 29 jours de radiation.
C'est ça, mais après ça, il est revenu pour la fin de saison, puis je pense que c'est Pat Lafontaine à l'époque qui le poursuivait ou il était en avant de lui, puis il l'avait finalement rejoint et dépassé là, à la fin de saison.
Et donc, c'est parmi les sportifs les plus célèbres cas de cancer chez les sportifs, Sophie.
Oui.
Quand on parle de Mario Lemieux, il y en a eu plusieurs. Mais
oui,
Mario
on a eu la gymnaste Shannon Miller. On a aussi Éric Chanteau, qui lui était un nageur, si je ne me trompe pas.
Il y a Phil Kessel, qu'on a parlé
Phil
ce matin.
Kessel, c'est vrai, oui, c'est absolument. Vrai. En 2006, lui, il avait 19 ans quand il y a eu le diagnostic
de cancer. Avec les Bruins, oui.
Oui, mais il a quand même compétitionné en 2000. Ça, c'est en décembre 2006 qu'il y a eu ce diagnostic-là. En 2010, il a quand même compétitionné aux Jeux olympiques de Vancouver, puis il avait aidé l'équipe américaine à obtenir une médaille d'argent. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui est encourageant. Maintenant, on ne doit pas regarder ça comme si c'est dramatique, mais plutôt une étape. Puis les traitements font en sorte qu'on peut s'améliorer, et c'est ce que je pense.
Et des fois, ça ne pardonne pas, c'est pas le cancer, mais c'est un accident en fin de semaine, week-end funeste dans le monde du sport.
Oui, il y a eu deux événements majeurs. Là encore, ça m'a fait penser à nos travailleurs là, qui travaillent fort, tout ça, pour faire améliorer notre société québécoise, qui sont victimes d'accidents de travail. Mais ça arrive aussi chez les athlètes. En fin de semaine, là, on a eu une jeune là, qui est décédée le 30 août 2019, une jeune jockey de l'Australie qui s'appelait Michaela Claridge. Elle avait 22 ans. Elle était spécialisée là, dans le jockey de Thoroughbred, parce qu'il y a une différence entre les Thoroughbred et les Standardbred. Là. Elle faisait le genre de jockey, mais sur les chevaux.
Sur les chevaux, OK.
Oui, elle était en entraînement tout simplement avec une autre fille là, sur la piste de course, pas en course du tout. Elle est tombée, puis elle s'est sérieusement blessée. L'histoire ne dit pas qu'est-ce qui est arrivé, mais elle est décédée quand même sur le coup. Là. C'était une apprentie, 22 ans, une femme au début de carrière qui avait un avenir très prometteur. T'sais, au niveau des jockeys, les femmes aussi sont petites. Hein? Fait qu'aux États-Unis puis en Australie, ils ont quand même beaucoup de succès à cause de leur gabarit. Voyez-vous, le gabarit d'une femme dans ce contexte-là a un avantage.
Exactement. Oh oui, tout à fait. Parce que les hommes qui pratiquent ce sport-là également sont tout petits là, quand ils sont sur les chevaux. Là. Ah oui, c'est très important. Et tu as eu Antoine Hubert en Formule 2 en Belgique en marge du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps. C'est un accident horrible. Et là, présentement, on enquête s'il n'y a pas eu homicide involontaire ou négligence criminelle, là, comme on fait pour toutes les morts accidentelles en Belgique.
Avez-vous vu l'accident, vous?
Oui, bien sûr.
Effectivement, ça a l'air que l'auto était méconnaissable. Ah oui,
c'est un carambolage. Là. Écoute, quand une monoplace se retrouve propulsée sur la piste, tu sais, un contact dans le muret et ensuite revient vers la piste et l'autre pilote qui arrive peut rien faire d'autre que rentrer dedans parce que on est à plus de 200 km/h après ce virage-là, là. Ça pardonne pas.
Non,
et c'est un contact latéral, t'es moins protégé de sur les côtés qu'en avant et en arrière.
Donc, effectivement, ça, c'est un athlète qui, lui, dans le cadre de son travail, qui faisait son travail au meilleur de sa connaissance, qui malheureusement a été victime d'un accident. Donc, ça nous fait rappeler quand même Gilles Villeneuve, hein, évidemment.
Oui, ouais, ça fait.
Ça nous fait aussi rappeler...
Aussi en Belgique.
Oui.
C'est vrai,
hein? J'avais pas
allumé.
Okay. On parle aussi à Jules Bianchi, qui était le dernier, qui était heureusement, là, qui était décédé, lui, d'un accident en 2014 au Japon.
Entre Ayrton Senna et Jules Bianchi, t'as pas eu de mort en piste. Donc, tu parles quand même d'un sport qui s'est beaucoup amélioré parce qu'il y a eu des années où t'avais plusieurs mortalités par année en Formule 1. Mais entre 1994 et Jules Bianchi, c'est quoi, 2016, à Suzuka, au Japon, il n'y avait pas eu de décès entre les deux en piste de pilote. Il y a eu des événements collatéraux, c'est des pièces qui ont frappé quelqu'un qui était en marge de la course, là, mais vraiment pas de décès. Il y en avait eu ici au Canada, on avait parlé dans une de tes chroniques là, d'un travailleur de piste là, qui avait été écrasé par un tracteur, tout à fait. Mais c'est ça, c'est des pilotes qui n'en avaient pas eu. Et là, t'as le pilote en Formule 2, Antoine Hubert, en fin de semaine, et t'as eu Jules Bianchi, effectivement. Et chaque fois que ça arrive, on resserre les règles de sécurité. Le fameux halo qu'on voit sur les monoplaces maintenant de Formule 1, c'est justement dû au décès de Jules Bianchi pour protéger la tête des pilotes qui est exposée. Là.
Malheureusement, il faut qu'il y ait un événement majeur qui se passe pour qu'il y ait amélioration dans les règles de santé et sécurité. Et là, ça me ramène à penser à Raymond Johnson Chapman. On retourne vraiment, vraiment loin. C'est un joueur de baseball qui jouait pour les Cleveland, les Indians de Cleveland, qui est décédé le 17 août 1920.
Oh!
OK, donc ça fait quand même longtemps. Il est décédé parce qu'il a été frappé à la tête par une balle.
Il était au bâton, lui-là, il allait frapper, puis le lanceur l'a atteint à la tête.
Oui.
Et il est mort.
Oui, suite à ça, il est mort 12 heures plus tard. Là. C'était quand même assez rapide. Suite à ça, la Ligue majeure a décidé d'instaurer des règlements. Donc, tout ce qui était la spitball. Vous savez, c'est quoi la spitball?
La balle mouillée.
La balle mouillée. Ils ont été bannis à partir de ce moment-là, en 1920, parce que ça faisait en sorte que ça récoltait de la saleté sur les balles, puis que ça mettait en péril les règles de l'hygiène. Okay. Fait que ça, ça a été fait même en 1920.
Mais il n'est pas mort de ça, Chapman.
Mais il n'est pas mort de ça. Non. Il est mort de la balle à la tête. Puis effectivement, après ça, ils ont mis en place... l'obligation de porter un protecteur, casque protecteur.
Ouais, mais ça a été plus tard, hein, pas mal, je pense, le casque protecteur.
Ça a pris 30 ans avant que ça devienne obligatoire.
C'est un long combat.
Ouais. Parce que ben, comme les casques au hockey, ça a pris combien de temps avant que vraiment
écoute,
que ça
soit. J'ai joué contre des joueurs, moi, qui n'avaient pas de casque. Début des années 80, il y en avait qui n'avaient pas de casque.
Exact.
Fait que c'est en quelle année que c'est devenu obligatoire?
Bon, OK, ben, ils ont grand-périsé, donc les joueurs qui étaient.
79 étaient là, et moins. Ceux qui avaient signé, moi, dans le temps, c'était les contrats 79 et moins avaient l'opportunité de jouer sans casque. Après ça, t'étais obligé de jouer avec un casque. Et là, t'étais obligé de jouer avec un casque, tout le monde. Là,
as-tu déjà joué avec pas de casque au hockey?
Jamais. Je suis pas capable.
Même mineur?
Non, je suis vieux, mais pas tant que ça, là, mais tu sais, j'avais des casques à trois palettes dans le temps, là, on mettait notre truc en dessus parce qu'on jouait dehors, là.
Ouais.
Mais non, je me sens pas à l'aise de jouer pas de casque, mais c'est bizarre, hein. Tu sais, t'arrives dans le coin vite et tout ça, t'as beau être habile sur patin, tu sais jamais, là, tu frappes une craque dans la glace, quelque chose, tu tombes mal, puis tu te cognes la tête, là, non.
Mais ça va vite, là.
Ben oui, écoute, avant de te quitter, Sophie, en rafale, je sais que tu aimes beaucoup la course de chevaux et tu as la Coupe de l'avenir en fin de semaine à Trois-Rivières.
Oui, à l'Hippodrome de Trois-Rivières, c'est l'aboutissement de la saison complète. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une course qui est la Coupe de l'avenir puis la Coupe des éleveurs. Donc, toute l'année, il y a eu des différents éliminatoires. Puis là, ça fait que c'est les meilleurs chevaux qui compétitionnent. En fin de semaine, il y a quasiment 1,5 million de bourses. C'est pas rien. C'est la plus grosse course du Québec. Ça se passe en fin de semaine à l'Hippodrome de Trois-Rivières à 1 heure. Moi, je vais y être toute l'après-midi pour encourager cette industrie-là, puis le monde de chevaux de course, là, qui est une industrie qui a besoin de votre support. Là.
Montréal, Trois-Rivières en cheval, c'est combien de temps, ça?
Je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé quand j'étais
Google
jeune.
Google Maps n'a pas cette option-là, vélo, en marchant ou en auto, en autobus, mais pas à cheval.
Non. c'est plus légal de se promener à cheval, mais il y a longtemps, à la ville de Montréal, il y avait un règlement qui n'avait pas été aboli où ce que c'était écrit que c'était interdit de stationner son cheval devant l'hôtel de ville. C'était une interdiction, puis c'était encore dans les règlements jusqu'à tout récemment.
Il y a des calèches qui se promènent devant tout le temps. Là.
Ben, ça aussi, c'était aboli.
Ouais, oui, ça, c'est bien correct. Parce que
c'est difficile de stationner un cheval en parallèle.
Non, c'est pas que ça. À 40 degrés de chaleur, le cheval qui tire la charrette.
Oui, effectivement.
Et pour conclure, on a parlé souvent des boissons énergisantes. Alors, il y a le recours de Red Bull qui va être entériné. Il y a un recours qui a été fait pour des mauvaises influences ou donner l'impression que c'était bon pour la santé. Alors, il y a un règlement qui a eu lieu de 850 000 qui va être entériné en décembre 2019. Donc, si vous faites une réclamation, vous allez avoir droit à un maximum de 10 $. Mais ce qui est l'avantage de ce recours collectif-là qui va être entériné, ça fait en sorte que Red Bull va être obligé d'avoir une clause qui mène à santé, un lien à Santé Canada pour expliquer les dangers des boissons énergisantes.
10 piastres, ils vont acheter 2 canettes de Red Bull.
C'est ça.
Effectivement.
Tout à fait.
Bien raison.
Ah, c'est ça. C'est comme ceux qui font des recours contre les compagnies de cigarettes et ils continuent à fumer.
Ah, 850 000, c'est rien pour Red Bull en plus.
Non. Et parmi les athlètes qui sont décédés, Chef Roger nous texte le lugeur aux Olympiques. Mais il texte pas le nom. Vous vous souvenez de son nom?
Oui. Comment il s'appelait?
C'était pas beau, ça.
Il s'appelait Nodar Kumaritashvili. Je sais pas pourquoi je m'en souviens, mais il s'appelait Nodar Kumaritashvili. Peut-être parce qu'on l'a trop répété pendant
c'était
une semaine.
Vraiment, là.
C'est incroyable. Ah non,
il y a pas eu une barre d'acier.
Tout à fait.
Ah oui.
Sophie, passe une belle semaine.
Merci.
On te souhaite des bonnes nouvelles.
Merci. Vous aussi, à la semaine prochaine.